La première lecture ce matin, et sur laquelle nous nous arrêterons pour méditer, se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les 10 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le texte de l'Évangile pour nous ce matin se trouve dans Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable alors le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Enfin, une troisième lecture dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 13 à 22. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éternel, ta parole est chemin, ta parole est lumière, ta parole est source de vérité. Voilà, quand je discute avec des jeunes dans un bar, que je reçois un email de leur part, ça, ce qui peut arriver assez souvent, il y a des tas de questions qui se posent. à propos de la foi. Et dans ces questions, je pourrais peut-être les résumer sous un seul point, sous la question « Où est Dieu ?» Ou encore, en fait, pourquoi Dieu ne le voit-on pas ? Pourquoi ne peut-on pas le toucher ? Pourquoi ne peut-on pas l'entendre ? Pourquoi ne peut-on pas le goûter ? Quand les choses vont mal, où est-il ? Dieu est-il parti ? Nous a-t-il oubliés ? Ou joue-t-il à cache-cache avec les humains ? Et ne sourions pas trop vite parce que toutes ces questions sont très sensées et justifiées. Sensées non seulement justement parce qu'elles sont légitimes et justifiées pour tout chrétien qui réfléchit un peu, mais aussi sensées parce qu'elles naissent de nos sens physiques qui aimeraient bien expérimenter ce Dieu qui autrement pourrait paraître par trop abstrait ou trop lointain et qui resterait pour nous à l'état de concept. Alors, je ne connais pas de réponse vraiment satisfaisante à toutes ces réflexions, bien sûr. Moi aussi, il m'arrive parfois de souhaiter que Dieu se fasse un peu plus tangible dans ma vie. C'est des choses qui arrivent. Je me dis, mais où est-il ? Pas facile. Mais vous savez, quand on est en présence d'une question bien encombrante, une solution pour s'en débarrasser, c'est d'en poser une autre. Ce sont les rabbins qui m'ont appris ça. J'aime beaucoup la technique, d'ailleurs. Et en voici une, en tout cas, qui pourrait être la mienne. Où est Dieu ? Est-il près ? Est-il loin ? Pourquoi donc, lorsqu'elles viennent, ne poserions-nous pas ces questions très sensées, directement à Dieu lui-même ? Vous savez, dans les psaumes, ce recueil magnifique qui est au milieu de vos Bibles, où sont réunis et rassemblés tout un tas de prières, de joie, de détresse, de désespoir, d'espérance, eh bien, dans ces psaumes, il y a beaucoup de questions très sensées qui ont été adressées à Dieu. Quand j'appelle, réponds-moi. Pourquoi, Seigneur, rester éloigné et te cacher ? Dès l'aube, je te désire. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Mes membres sont meurtris. Mes adversaires m'insultent tous les jours en me disant : Où est ton Dieu ? Et dans ce même livre des psaumes, plusieurs réponses sensées ont été exprimées. J'aime l'Éternel, car le Seigneur entend ma voix suppliante. Il a tendu vers moi à l'oreille, et toute ma vie je l'appellerai. J'ai attendu le Seigneur, il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri. Il m'a tiré du gouffre tumultueux, de la vase des grands fonds. Il m'a remis debout, les pieds sur le rocher. Il a assuré mes pas. Et vous savez, ceux qui ont écrit ces paroles, et à leur suite des millions d'autres personnes à travers les siècles, affirment que Dieu est intervenu dans leur vie en répondant à leurs prières, en touchant leur cœur et ou leur corps, en se manifestant en tout cas par une lumière intérieure qui relève et qui guérit. À leurs questions sensées, ils déclarent avoir reçu des réponses sensées. C'est-à-dire des réponses qui non seulement ont touché leur sens physique, mais surtout des réponses qui ont fait sens pour eux. Or, si vous leur posez ces questions sur « Où est Dieu ?», leurs réponses, ainsi que les miennes d'ailleurs, celles de tout autre pasteur ou celles de tout autre religieux, demeureront toujours extérieures à vous. En revanche, Dieu pourrait sans doute devenir une réalité plus proche de vous si, à votre tour, vous expérimentez sa présence comme sensée. Et cette expérience, personne ne peut la vivre à votre place. Personne. Tout ce que peuvent faire ceux qui sont sur votre chemin, c'est éventuellement vous en donner envie, vous donner envie de la rencontre, vous éveiller votre curiosité, votre soif. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et si je parle de s'approcher de Dieu, c'est que je reconnais donc qu'il y a une distance à franchir. Mais quelle est cette distance ? Nous sommes déjà ici dans une église, n'est-ce pas là que Dieu se trouve à coup sûr ? Et s'il y a distance, dans quelle direction faut-il aller ? Ce serait encore là une bonne question, tant il y a de chemins qui prétendent conduire à Dieu. Moi j'ai une théorie, c'est que tous ces chemins, je ne sais pas s'ils conduisent à Dieu, mais ce que je crois, c'est que Dieu est assez grand pour nous rejoindre sur chacun de ces chemins. Et c'est très soulageant de le savoir. Enfin, peut-être depuis que j'ai compris ça, l'autre me paraît comme un frère qui chemine aussi tout à fait capable d'être touché par Dieu à n'importe quel moment, quel que soit son chemin, je n'ai pas besoin de l'amener sur le mien. D'ailleurs, c'est justement dans la manière de voir et de comprendre Dieu que se jouent toutes les grandes différences entre nos religions, la manière peut-être de cheminer, d'expérimenter ces différents chemins. Certaines théologies orientales, par exemple, vous diront que Dieu est en tout et qu'il est partout. Et selon cette vision du monde, tout est Dieu et Dieu est en toute chose. Dieu peut donc se rencontrer en tout. Même dans une fleur qu'on sentirait ou qu'on caresserait. Malheureusement, sur la terre, il n'y a pas que des fleurs, il y a aussi des épines, des ronces, des orties, il y a toutes sortes de malheurs qui nous arrivent, des inondations, des ouragans, des tremblements de terre abominables, des bourreaux, des terroristes, des maladies, des tortures, des voleurs, des violeurs, des mains maléfiques qui détruisent et qui déchirent. Alors, Dieu est-il aussi dans cette violence naturelle et humaine, impitoyable et destructrice? Bien, certaines traditions religieuses, en particulier au sein de l'hindouisme et de l'islam, disent que là aussi, dans ces événements dramatiques, Dieu se manifeste mystérieusement, Dieu agit de manière à ce qu'on ne puisse pas comprendre. Même dans le mal et le malheur, Dieu s'exprimerait. D'autres, en particulier au sein du judaïsme et du christianisme, pensent au contraire que c'est l'absence de Dieu qui s'y exprime. Comme si, par l'expérience du malheur, nous étions renvoyés à ce que Dieu ne veut pas ou ce que Dieu n'est pas. Personnellement, je ne crois pas que Dieu soit dans tous les événements, mais ce que je crois, c'est qu'il les traverse, comme il nous traverse, comme il traverse toute chose dans notre monde, comme, vous savez, un peu, on pourrait avoir cette image, comme la vie traverse la nature au printemps avec cette même force qu'on ne pourrait pas arrêter. Dieu traverse le monde. Et dans cette traversée, il désire se laisser rencontrer par l'intériorité de ce que nous sommes. Il veut toucher, nous rencontrer de l'intérieur. Il veut toucher notre cœur à l'intérieur. Entendez bien ça, ce serait donc par l'intériorité de ce que nous sommes que Dieu se laisserait rencontrer. Le drame aujourd'hui, c'est que nous sommes bien trop souvent à l'extérieur de nos vies, comme habités par des tourbillons d'activités que d'autres, généralement, souhaitent nous voir vivre et nous faire vivre. Et on est déjà très habiles nous-mêmes à trouver des tas de distractions à l'extérieur de nous-mêmes, tant on a peur de l'intimité avec nous-mêmes. On est très vite, très très vite, à nous distraire à l'extérieur parce que l'intimité nous fait peur. Alors, pour pouvoir recevoir une réponse satisfaisante à la question « Où est Dieu ?», eh bien, il faudrait peut-être d'abord que je puisse répondre à la question « Où suis-je ?» Quelle drôle de question, n'est-ce pas? Nous savons très bien où nous sommes, puisque nous sommes là, assis sur des bancs d'église, à écouter un pasteur qui nous parle. Mais ce n'est pas si simple. Dans ce texte de la Genèse qu'on a lu tout à l'heure, la première parole, vous l'avez entendue, peut-être elle vous a frappé, cette première parole que Dieu adresse à l'homme une fois qu'il a péché, qu'il a désobéi, vous l'avez repéré? Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Alors évidemment, Dieu savait où était l'homme dans l'espace extérieur. Il savait où il se trouvait, là, dans le jardin, planqué derrière tel arbre. Mais le problème, c'est que c'est dans son espace intérieur que l'homme s'était égaré. Et écoutez bien sa réponse. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. » Et je me suis caché. Alors vous voyez, le premier à se cacher, ce n'est pas Dieu, mais l'homme. Et le premier à chercher l'autre, ce n'est pas l'homme, mais Dieu. À partir de ce moment mythique dans la Bible, l'homme fuit devant son Dieu. Il est pétri de peur et se cache. Et aujourd'hui encore, il y a de multiples manières de se coudre des feuilles de figuier, de se faire des pagnes, de se cacher derrière tel ou tel arbre du jardin. Chaque fois que je masque ma solitude et ma vulnérabilité par plus d'activité, plus de bruit, plus de conformisme, plus de fuite, plus de jalousie, plus d'auto-dénigrement, plus de transgression, plus de méfiance, plus de mépris, plus d'argent, ou par toutes sortes d'autres choses rassurantes qu'on peut mettre dans nos vies, eh bien, à chaque fois, je m'isole toujours un peu plus de mon identité véritable, des autres et de Dieu. Et parce que vous et moi, nous avons peur, eh bien, nous nous cachons les uns des autres, et nous portons des masques. Le problème dans notre monde, c'est que la réponse à cette peur fondamentale, peur de déplaire, peur de ne pas être accepté, n'est dans aucune fuite possible. Ni dans l'accumulation de biens de consommation, ni dans tous les stratagèmes de séduction des autres pour être aimé et pour être accepté, pas plus à l'inverse que dans l'exposition forcée de ses fragilités aux premiers venus. La vérité, c'est que notre monde, malgré sa beauté, reste cruel parce que nous sommes tous des blessés et des blessants, toujours en quête d'approbation et en quête d'amour. Au fait, soit dit en passant, il est dangereux d'exposer ses vulnérabilités à des personnes incapables de le faire elles-mêmes. Mais bon, selon la Genèse, voici quelle fut, et on pourrait dire quelle reste, la réponse de Dieu. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. S'approcher de Dieu, c'est de reconnaître que nos feuilles de figuier et les arbres du jardin derrière lesquels nous nous cachons sont en réalité des camouflages bien dérisoires, bien inutiles, bien inappropriés. S'approcher de Dieu, c'est accepter qu'il soit celui devant qui je peux mettre à nu toutes mes craintes, toutes mes peurs les plus secrètes et recevoir de lui, comme il veut et quand il veut, une protection nouvelle, un habit nouveau. Selon les chrétiens, Dieu était présent en Jésus, vulnérable, faible, nu. C'est parce qu'en Jésus crucifié, Dieu lui-même a connu le rejet et la peur qu'il nous est possible, à nous aussi, sans crainte d'être rejeté, de nous présenter à lui. Et c'est parce que par sa résurrection, Jésus a été revêtu de vitalité qu'il nous est possible, à nous aussi, d'être revêtus de force et de vie. Encore faut-il que nous l'acceptions. Attention donc, Dieu nous cherche bien plus que nous le recherchons. Alors de grâce, ne nous cachons plus et laissons-nous rejoindre. Alors en conclusion, il est bien possible que tels que nous sommes, même croyants engagés, nous soyons encore en train de fuir celui qui nous cherche, celui qui nous interpelle et nous questionne. Où es-tu ? Parce que nous le fuyons, il est aussi possible que nous fuyons les autres et que nous nous fuyons nous-mêmes. Il y a une espèce de logique là-dedans. C'est possible parce que c'est une expérience en tout cas qui m'arrive et que je m'arrive de le réaliser. Et que nous sommes tous les uns les autres tout à fait pareils. C'est possible parce que Paul éprouve le besoin de le dire aux Éphésiens, tous ces chrétiens de l'église d'Éphèse, il leur dit « Souvenez-vous donc de ceci, mais maintenant, vous qui étiez jadis éloignés, en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Voilà donc ce Dieu Esprit qui traverse tout et qui donc traverse nos vies en semant la réconciliation sur son passage. Oui, rappelons-nous que nous n'avons plus besoin de fuir. Parce que le Messie, le Christ vivant, est venu nous réconcilier une fois pour toutes, nous remettre en phase avec celui qu'il appelle le Père, avec les autres et avec nous-mêmes. C'est pourquoi, mes amis, si nous voulons vraiment des réponses à la question « Où est Dieu ?», il va d'abord falloir, avec l'aide de son esprit, le long de notre route, répondre à la question qu'il nous pose « Où es-tu ?». C'est, je crois, la question et la piste qu'il nous laisse ce matin pour chercher sa présence dans nos vies.